Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé ce lundi 31 janvier 2022 à la pose de la première pierre pour les travaux des constructions du pont en eau profonde des bananes au Congo central. Ce port géant permettra à la RDC d'avoir accès sur la côte ouest de l'Afrique. Plusieurs personnalités, y compris les membres du gouvernement central, ont pris part à cette cérémonie sur place à Mwanda pour suivre la matérialisation de cet ambitieux projet élaboré depuis l'époque coloniale. Que pensez-vous de cette initiative et qu'est-ce qui peut garantir sa matérialisation? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons Arsène Mapoko, il est ingénieur hydro-portuaire et ancien cadre à la Congolaise des voies maritimes CVM en sigle. Bonsoir Arsène Mapoko.
Bonsoir.
Apollinaire Nsoka, il est coordonnateur de la société civile de Boma et coordonnateur de l'ONG Initiative pour le développement local IDL en sigle. Bonsoir Monsieur Apollinaire Nsoka.
Bonsoir camarades.
Et Jérôme Sekana, journaliste économique et directeur général de l'agence Galaxy Media. Bonsoir Jérôme Sekana.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Comme nous l'avons dit dans les sommaires, c'est ce lundi 31 janvier que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a procédé à la pose de la première pierre pour les travaux des constructions du port en eau profonde à Banana dans les territoires de Mwanda au Congo central. Sur place à Mwanda, où s'est tenue cette cérémonie, plusieurs personnalités étaient présentes, y compris les membres du gouvernement central. Mais quelle est l'importance de ces ports en eau profonde? Les explications avec vous, Nana Pluriche Mambou.
C'est au terminal du fleuve Congo situé à Banana que sera construit le quai d'accostage de ces ports en eau profonde, un ouvrage inédit différent d'autres ports du pays construits sur le fleuve. Hormis les quais d'accostage, les entrepôts, l'administration portière qui seront construits, une zone industrielle sera aussi implantée dans la zone qui englobe l'île de Boulambemba, la base navale de Kitona et certains villages du secteur des Asolongo. Une fois construit, le port en eau profonde aura un impact économique et social indéniable sur la population, avec l'accostage dans les eaux nationales congolaises des navires essentiellement ceux de gros tonnage, inaccessibles dans les biefs maritimes congolais. Ces projets tant attendus à Mwanda en particulier pour son essor, s'est concrétisé peu à peu. Il créera les emplois directs et va promouvoir les transports de marchandises par conteneur. En attendant l'achèvement des travaux de construction de ces ports et sa mise en service, la RDC reçoit un faible tonnage de marchandises par rapport au port des Pointes Noires du Congo-Brazzaville, de Luanda en Angola ou celui de Kribi au Cameroun ou à cause des gros bateaux. Par ailleurs, la construction d'un port en eau profonde à Banana va non seulement faciliter l'exportation des produits locaux, mais également, elle impactera positivement sur les prix des produits importés. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
Merci à vous, Nana Pluriche Mambou, Arsène Mapoko. Je rappelle que vous êtes ingénieur hydroportuaire et ancien cadre à la Congolaise des voies maritimes CVM en sigle. Le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre pour les travaux de construction du pont en eau profonde à Banana dans les territoires de Mwanda au Congo central. Et que pensez-vous de cette initiative?
Je suis heureux. Certainement très heureux de voir que ce projet, qui date de très longtemps, voit finalement le jour. La pose de la pierre est un signal fort, justement pour permettre à la RDC de s'aligner au même diapason que les autres pays de la façade atlantique avec la construction de ce port. Voilà.
Voilà, vous avez vous-même reconnu que c'est un vieux projet qui date de plusieurs années. Et plusieurs fois, on a annoncé l'édification de ces ports en eau profonde, mais les travaux ne se sont jamais, n'est-ce pas, concrétisés. Et à votre avis, quelles étaient les difficultés auxquelles étaient butés les différents gouvernements pour réaliser cet ouvrage? Et qu'est-ce qui vous fait croire que les travaux vont, cette fois-ci, s'effectuer effectivement?
Alors, en fait... De tout le temps, on a parlé de ce projet, on a annoncé la pose de la pierre, ainsi de suite, mais ça n'a jamais eu lieu. En fait, c'est parce qu'il n'y avait pas de financement certain pour pouvoir entreprendre justement la construction de ce port. Et aujourd'hui, avec un partenaire qui a construit plusieurs ports dans le monde,
et qui s'est engagé à accompagner la RDC dans la construction de ce port en eau profonde, je crois, et c'est ce qui me rassure en fait, que le projet va aller jusqu'à son terme.
À l'époque, il avait été décidé que les travaux d'édification du pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville puissent s'effectuer avant, étant donné que les conditions étaient déjà réunies pour ces projets. Mais il y avait cette, nous nous rappelons, il y avait cette levée des boucliers de la part de la société civile et des notables de la province du Congo central qui avait exigé, n'est-ce pas, qu'on puisse d'abord ériger les ports en eau profonde. Alors, la question, c'est celle de savoir si la RDC est réellement prête aujourd'hui pour la réalisation de cet ouvrage. Est-ce que ce ne sont pas les pressions qui nous poussent à faire croire que l'on peut relever les défis en ce moment-ci?
Bon, vous savez, on dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La RDC a longtemps souffert du manque de ports en eau profonde, au point que la plupart des marchandises qui venaient pour le port de Matadi ou le port de Goma transitaient par le port de Pointe-Noire ou même le port de Luanda. Donc, avec l'avènement du projet des ponts route rail Kinshasa-Brazzaville, il avait fallu, en fait, que les Congolais, non seulement du Congo central, mais les Congolais tout court, haussent le ton pour dire, oui, nous voulons que ces projets de pont route rail qui soit construit, effectivement, pour relier les deux capitales les plus proches du monde. Mais faut-il quand même permettre à la RDC, ou faire en sorte que la RDC ait la possibilité de recevoir des grands bateaux venant du monde entier directement dans son port. Et avec les difficultés de la navigation au niveau du bief maritime, qui limite grandement les tirants d'eau des navires ou l'enfoncement des navires qui viennent au port de Matadi, il avait fallu, et c'est venu au bon moment, que la RDC construise son port en eau profonde à Banana.
Est-ce que vous pensez que nous sommes prêts, nous, la RDC, à accueillir cet ouvrage, et à les gérer dans les conditions du moment où nous donnons l'impression que nous sommes disposés, parce qu'il y a toutes ces pressions, n'est-ce pas, de la société civile, il y a toutes ces pressions de la population, notamment la population du Congo central, qui voudrait que l'on commence d'abord par édifier ces ports en eau profonde.
Oui, la RDC est obligée, en mon sens, est obligée, est tenue de se mettre au diapason des autres pays qui ont des ports en eau profonde, non seulement du fait de la pression, mais si nous voulons continuer à améliorer notre économie, l'économie de ce pays, nous sommes tenus de pouvoir construire ce port. Maintenant, je vais dire quelque chose peut-être qui va froisser plusieurs. La construction du port en soi ne suffit pas. Parce que le port, ce n'est qu'un aboutissement ou un point d'arrivée des marchandises. Point d'aboutissement des marchandises, des produits qui sortent du pays pour aller à l'extérieur par voie maritime, et le point d'arrivée des navires et des produits qui viennent de l'extérieur pour le pays. Maintenant, si les marchandises arrivent au port, c'est une chose, mais pour que ces marchandises, ces produits soient acheminés à l'intérieur du pays, il faut d'autres voies.
C'est pourquoi, monsieur Arsène Mapoko, je vous ai posé la question. Est-ce que vous pensez que nous sommes aujourd'hui, les conditions sont réunies en RDC pour que nous puissions accueillir cet ouvrage? Parce que vous avez vous-même reconnu, avec ces ports, on aura des navires, n'est-ce pas, des grands tonnages avec beaucoup de marchandises. Avons-nous pensé à l'évacuation de ces marchandises? Par quelle voie allons-nous évacuer ces marchandises quand on sait qu'on n'a pas des routes en bon état, même les chemins de fer est vétuste? Est-ce que nous sommes prêts?
C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, au même moment, au même temps qu'on construit le port, au même moment, il faut songer à construire les voies d'évacuation de produits ou les voies d'amener des produits ou des marchandises venant de l'intérieur vers le port. Le port lui-même, comme je l'ai dit, c'est une chose. Mais pour que ça soit rentable, pour que ça soit efficient, efficace et tout, il faut les autres voies. Donc, en fait, il faut un projet multimodal qui permette au port de jouer pleinement son rôle. est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à soutenir ce projet? Mais je crois que les circonstances voudraient que nous soyons sérieux, ne fût-ce que pour une fois. Sinon, nous allons construire un éléphant blanc, après on aura tout oublié.
Et lorsque vous vous posez la question de savoir quelles étaient les difficultés auxquelles étaient butés les différents gouvernements pour réaliser ces fameux projets, vous avez évoqué la question des financements. Vous avez dit qu'à l'époque, les financements n'étaient pas là, mais aujourd'hui, les financements sont certains. Et vous pensez qu'il n'y avait que ça comme raison? On sait que, d'ailleurs, c'est des notoriétés publiques. Hein, on dit que la douane de la RDC, c'est la douane la plus chère. Est-ce qu'il n'y avait pas tous ces facteurs-là qu'il fallait d'abord solutionner en amont avant d'édifier ces ports, parce qu'il faut aussi rassurer les partenaires, l'opérateur économique qui vient investir. Lorsqu'il investit et qu'il se rend compte que économiquement, ce projet n'est pas rentable, il ne va pas venir jeter son argent. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres facteurs, au-delà des facteurs financiers qui avaient expliqué les difficultés que nous avions à l'époque pour réaliser cet ouvrage?
Vous savez vous-même que plusieurs projets ont capoté dans ce pays, non pas parce que le financement, en fait, n'était pas. Mais dans d'autres projets, certains projets, notamment celui du projet de port en eau profonde dans l'État, ça n'a pas pu marcher parce que certains dirigeants qui étaient dans la lignée de l'exécution de ce projet et demandaient des pots de vin. Et les gens qui venaient, certains ont refusé. Nous avons reçu des Coréens qui ont fait les études sur la crique de Banana, là où le port en eau profonde va être érigé maintenant. Il y a eu plein d'autres qui sont venus, ils ont fait des études et tout, ils sont partis finalement parce que il n'y avait pas du sérieux dans le temps de la RDC.
Merci beaucoup Apollinaire Nsoka, vous êtes coordonnateur de la société civile de Boma et coordonnateur de l'ONG Initiative pour le développement local IDL en sigle. Vous êtes de la société civile et vous avez toujours, on a souvent diffusé vos informations, vous avez toujours attiré l'attention, n'est-ce pas, des autorités sur l'impact environnemental et social de ces projets. Et qu'est-ce que vous craignez, monsieur Apollinaire Nsoka?
Je crois que nous venons de suivre le président de la République poser la pierre, les différents discours, mais en suivant tous ces discours, c'est le charmant qui fait allusion aux questions environnementales. Ça, c'est un constat que j'ai trouvé très inquiétant. Mais aussi, quand vous lisez l'ancien document d'étude qui était plus une étude financière, la question de l'environnement ne prenait qu'un seul paragraphe. Et ça, c'était quand même grave. Mais je ne sais pas si vous avez suivi les images d'aujourd'hui. Nous sommes aux pointes des bananes, aux presqu'îles des bananes. Et nous sommes dans la base militaire de Banana, dans la base militaire fluviale de Banana. Donc voilà un peu là où va être construit le port. Et je crois que face à l'engagement de la République démocratique du Congo au niveau de COP26, d'être un pays solution sur les questions environnementales et climatiques, je crains que tout ce qui est parc de mangrove soit sabordé par ces grands projets, ces méga-projets. Et je crains que cette question ne soit pas prise en compte par le gouvernement congolais. Vraiment, nous avons besoin des ports tels que nous l'avons. Nous avons fait des enquêtes. La population de Mwanda, la population du Congo central d'où je vis, nous avons besoin du port, mais nous pensons qu'il est nécessaire qu'une étude d'impact environnemental soit menée en bon escient et que cette étude soit validée par l'Agence congolaise d'environnement en présence de la société civile. C'est très important, j'insiste là-dessus, parce que étant un pays solution sur le climat, mais avec des projets pareils sans une étude d'impact environnemental, c'est là où je rejoins mon ami qui dit que nous devons être sérieux sur tout ce que nous menons comme grand projet d'investissement.
Apollinaire Nsoka, vous ne pensez pas que lorsque l'année dernière il y a eu renégociation de la convention réunissant les deux parties, le gouvernement congolais et la firme Dubai Port Road, cette question environnementale avait été résolue? Vous ne pensez pas que cela avait été évoqué à l'époque, que la solution avait été trouvée?
En fait, en suivant les discours du ministre des communications lors de la signature du contrat, et quand il signait le contrat, dans son discours du 11 décembre 2021, il n'a pas fait allusion à ça. Il a fait allusion au moins aux questions financières, de montage financier et des droits de la République démocratique du Congo sur les questions financières et sur les questions de droit. Des droits qui ne sont pas des droits relatifs à l'environnement. Ça, c'est le premier constat. Et donc, je ne pense pas que le gouvernement congolais qui a, nous en sommes très contents pour avoir renégocié le contrat, parce que quand vous lisez ce qui s'est passé avec le régime passé, apparemment, la République démocratique du Congo n'avait pas vraiment bénéficié sa cause dans ce contrat qui allait être signé, qui était signé avec l'IPOA. Mais avec le contrat, nous attendons sa publication pour dire quoi que ce soit. Mais à suivre le discours, nous ne pensons pas que la question environnementale a été prise au niveau qu'il faut. C'est ça un peu la crainte que nous avons.
Il est dit que la base de Kitona risque de disparaître, que la mangrove de Boulambemba, un patrimoine qui est protégé, n'est-ce pas, par la communauté internationale, risque aussi de disparaître. Vous voulez nous faire croire que, M. Apollinaire Soka, qu'il n'y a pas de mécanismes, il n'y a pas de mesures qui ont été prises pour préserver ces différents patrimoines?
Vous savez, camarades, quand vous lisez la loi sur l'environnement de la République démocratique du Congo, quand vous lisez aussi la constitution congolaise sur les droits collectifs des Congolais, la question environnementale est en train d'être comprise comme étant aussi un crime. Je crois que votre camarade a bien dit que Boulambemba sera attaqué. Et Boulambemba, nous sommes déjà dans le parc des mangroves. Donc Boulambemba va disparaître. Quand on va déplacer les camps militaires, jusque-là, le gouvernement congolais n'a pas encore dit où il va placer les camps militaires. Donc c'est une question de délocalisation dont la réponse n'est pas encore publique. Je ne sais pas si dans le gouvernement avec les amis du port, cette question a été évoquée et comment le gouvernement congolais va assumer ça. Les déplacements des camps militaires, c'est aussi une question stratégique de sécurité des frontières. Parce que quand vous êtes à la pointe, là où on va commencer à construire le port, la ville de Soyo, qui est en face de nous de l'Angola, est totalement visible le soir. Je ne dis pas que nous pouvons avoir des problèmes avec nos frères angolais, mais nous sommes dans une question de sécurité frontalière. Ça, c'est de un. Et de deux, on se dit où on va placer la base militaire de Banana. Est-ce qu'on va le placer à Boulambemba, donc c'est-à-dire raser tout ce qui est mangrove là-bas, parce que c'est une population qui va être déplacée. Et en le déplaçant, nous craignons que l'île de Tombo, qui est entre les presqu'îles, je crois que l'ami, l'ancien de la CVM est en train de me suivre, les presqu'îles où on va construire le port, et Boulambemba, il y a l'île de Tombo au milieu. Et l'île, les îlots de Tombo, qui est totalement couverte par le mangrove, ces îlots vont totalement disparaître. Et je crois que la crainte des amis de l'ICTN que nous visitons de temps en temps est réelle. Et quand vous allez là-bas, vous allez le constater. Nous craignons que la question environnementale ne soit pas prise en considération par le gouvernement congolais.
Et les populations qui doivent être délocalisées, jusque-là, aucun mécanisme n'a été prévu. Le mécanisme de compensation pour ces populations qui doivent être déplacées.
Mais au fait, camarade journaliste, c'est ça au fait la question des responsabilités. De notre responsabilité, nous les Congolais, de notre responsabilité, nous le gouvernement congolais. Nous venons placer une première pierre, poser la première pierre, mais il y a des préalables dont on ne parle pas encore. Et je me pose la question de la délocalisation des communautés et des bases militaires et de certains villages environnants du côté de Boulambemba et de Bakuyanga et les autres, comment cette question va être soulevée? La question de la protection des mangroves, comment ça va être évoqué? Jusque-là, on n'en parle pas encore. Je crois et je présume que le gouvernement congolais va en parler et donner l'information. La loi oblige le gouvernement, la province et les entités territoriales décentralisées, je lis là la loi sur le principe fondamental de l'environnement de la République démocratique du Congo, oblige toutes ces entités d'État de donner l'information à la population susceptible d'être affecté par un grand projet comme celui du port à eau profonde, comme celui du Grand Inga et comme celui des barrages de Mpioka et celui des barrages de Matadi. La loi oblige le gouvernement de le faire, mais on est surpris qu'on va poser la première pierre, ces préalables ne sont pas encore réalisés.
Monsieur Jérôme Sekana, vous êtes journaliste économique et directeur général de l'agence Galaxy Media. Que pensez-vous, vous aussi, n'est-ce pas, de cette initiative qui consiste à construire ces ponts à eau profonde des bananes?
C'est une très bonne chose. Hein. Je l'ai toujours dit sur vos antennes. La République démocratique du Congo a tous les atouts pour devenir un pays émergent à l'horizon 2030-2035. Mais il manque jusque là à notre pays un levier très important, notamment l'intégration économique à l'intérieur du territoire national. Et le port en eau profonde des bananes, c'est la clé de cette intégration nationale. Intégration économique, je précise. Vous savez, même à l'époque coloniale, le boulevard flottant de la République démocratique du Congo, que nous appelons aussi majestueux fleuve Congo, charriait non seulement les eaux qui s'est déversées dans l'océan Atlantique à Banana, mais également charriait également de minerais. En d'autres termes, je vais dire que le modèle économique belge voulait que les minerais exploités dans les Katanga devraient sortir par Banana ou par Matadi. Et que, à partir de là, ça pouvait partir vers l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, nous perdons des millions et des millions de dollars, tout simplement parce que nous utilisons voies terrestres, notamment via Tanzanie et même l'Afrique du Sud. Il suffit de construire le port en eau profonde des bananes et permettre à ce qu'on y mette tout autour une zone de libre-échange. Je peux vous garantir que ça sera un déclic pour le développement. Et pour compléter ce que venaient de dire les compatriotes qui m'ont précédé, il ne suffit pas seulement de construire le port en eau profonde des bananes. Encore qu'il faut qu'il y ait le chemin de fer. Nous avons en République démocratique des grands projets comme Congo Railway avec les Allemands, et il faut nécessairement faire en sorte que les Japonais qui avaient jeté le pont Maréchal sur le majestueux fleuve Congo au large du port de Matadi, parce qu'en dessous de ce pont il y a un espace réservé pour le train, qu'on puisse rapidement, comme le projet de construction de port en eau profonde de Banana fera 3 ans, c'est-à-dire de 2022 à 2025, il faudra que le plus rapidement possible le gouvernement puisse prendre d'autres contacts afin de réhabiliter rapidement le chemin de fer de Matadi jusqu'à Kinshasa et qui peut aller jusqu'à l'intérieur du pays et commencer à construire un autre chemin de fer qui pourra déboucher directement sur le port en eau profonde de Banana. Vous savez, il n'y a pas que le minerai qui doit venir du Grand Katanga. Mais nous avons, tenez-vous bien, 20 milliards de tonnes de minerais de fer dans la Grande Orientale. Et vous savez, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas construire des buildings, on ne peut pas construire des bateaux sans ce fer-là. Nous avons une quantité énorme de ce minerai, et pour exploiter ces minerais, essentiellement, il faut qu'il y ait le chemin de fer. Et si nous faisons une jonction entre la grande province orientale et les ports en eau profonde des Banana, le problème sera résolu. Non seulement on va créer beaucoup d'emplois, imaginez-vous, nous avons le chemin de fer qui quitte de Lubumbashi en passant par Kalemi, les Kasai, ça débouche jusqu'à Kindu, de Kindu jusqu'à Pontierville, au Bundu. Aujourd'hui, on prend les bateaux, dès là, un autre train jusqu'à Kisangani, et de Kisangani, on prend le bateau jusqu'à Kinshasa, et de Kinshasa, encore les trains jusqu'à Matadi, et on fait une bretelle jusqu'au niveau de Banana. Ça serait une très bonne chose. Ça va permettre à ce pays de pouvoir s'intégrer économiquement. Et ça va aussi booster d'autres entreprises. Je parlerai ici, par exemple, de la SNCC, je parlerai ici de la SCPT, l'ex-ONATRA, mais également tous ceux qui auront à exploiter, ne serait-ce que les espaces que nous avons pour l'agriculture, eh bien, transporteront facilement, on aura des débouchés.
Voilà, au sujet des entreprises que vous venez d'évoquer là, nous nous rappelons que l'année dernière, les banques syndicales de la société commerciale des transports et ports SCTP ex-ONATRA avait au mois de novembre dernier, n'est-ce pas, dénoncé l'exclusion de cette entreprise donc de l'ONATRA de la gestion du port en eau profonde des Banana. Et dans une déclaration qui avait été faite ici à Kinshasa devant la presse, le président de l'intersyndicale de l'ex-ONATRA avait indiqué que cette décision risque d'occasionner la fermeture et la disparition et pure et simple de cette entreprise. Et il avait dit qu'il y avait risque, n'est-ce pas, que l'ex-Onatra perde les ports des Banana et des Boma. Selon lui, ce qui va rester, n'est-ce pas, à l'ex-Onatra, c'est les ports des Matadi, où il y a quasi arrêt d'exploitation. Comme qui dirait, l'État va sacrifier cette entreprise. Est-ce que cette question a été résolue en amont? Parce que vous venez de dire que ces entreprises vont avoir des facilités avec l'érection de ces ports en eau profonde, alors que les gens qui y travaillent estiment que si les choses ne sont pas bien gérées, ça va préjudicier, n'est-ce pas, ces entreprises de l'État.
Vous savez, on ne peut pas privatiser une entreprise d'État de n'importe quelle manière. Je pense que nos amis délégués syndicaux de l'ex-Onatra ont raison de remuer ciel et terre, parce que quand bien même Congo Railway peut venir, ainsi que d'autres projets en gestation, on ne peut pas ne pas intégrer la SCTP. Donc, ils ont parfaitement raison. Mais le problème que nous avons ici, la chance que nous avons, contrairement peut-être à d'autres projets qui étaient montés auparavant, parce qu'il y avait un problème de montage financier, les Congolais étaient très gourmands, ils demandaient et qu'ils puissent avoir des pourcentages alors qu'ils ne mettaient rien sur la table. Au jour d'aujourd'hui, DP World a déboursé un cash flow d'$1 milliard déjà disponible. Et le projet en soi, il est de $1,2 milliard. Et quand bien même la République, en termes d'actionnariat, ne pèse que le 1/3, c'est une très bonne chose dans la mesure où les ouvrages très importants peuvent déjà être posés avec le cash flow disponibilisé par BP World. Donc, ce qu'il faut faire, en tout cas, et je soutiens ceux qui m'ont précédé quand ils disent que nous devons être très sérieux, il faudra vraiment qu'il y ait un suivi, et surtout le problème environnemental, comme disait le président de la société civile, parce que nous sommes un pays solution, mais j'ai cru comprendre, en m'approchant un peu de ce dossier, que le volet environnemental a été pris au sérieux, parce qu'on ne peut pas construire un tel ouvrage sans tenir compte de l'impact environnemental. Surtout que DP World connaît très bien qu'il est coté en bourse, et s'il se permet de polluer ou de détruire les mangroves, eh bien, il aura le monde entier sur son dos. Et je pense que le BP World ne peut pas se permettre une telle aventure.
Jérôme Sekana, vous avez rappelé les montants de cet investissement qui est estimé à $1,2 milliard. Et vous dites que dans tout ça, les parts de la RDC, c'est juste
le 1/3.
Est-ce qu'il ne s'agit pas une fois de plus d'un contrat léonais, comme on l'a toujours dit? Est-ce que nous ne sommes pas en train de céder notre patrimoine à cette firme BP World?
Non. Écoutez, c'est un BOT, Building, Operating and Training. Cela veut dire que le BP World arrive, donne de l'argent, va gérer pendant un certain temps, je ne sais pas si on a maintenu 40 ans, il faut que je regarde dans le projet, et que après, ça deviendra la propriété de la République démocratique du Congo, dans sa totalité, quoi. Mais il faut permettre à BP World de rentrer dans ces frais, parce que nous, pour le moment, nous ne pouvons pas prétendre, avec toutes les difficultés qui sont les nôtres, de disponibiliser un cash flow comme ça d'$1 milliard. Donc, je pense que cette fois-ci, le contrat a été bien négocié, et accordons la chance à ce projet pour que, en tout cas, ça puisse nous permettre non seulement de disposer du port en eau profonde des Banana, parce que ce n'est qu'un volet. Hein. On doit construire encore là-bas un port pétrolier, on doit construire encore là-bas ce qu'on appelle la zone des libre-échanges, on doit construire le chemin de fer, d'où la nécessité pour le gouvernement de pouvoir attirer vers lui d'autres grands investisseurs et essayer d'être flexible. Parce que le problème que nous avons, nous sommes considérés comme un pays à risque, avec l'insécurité qu'on a à l'Est et tout ça, et puis ces stéréotypes qui nous collent à la peau, la corruption, les détournements des deniers publics. Mais maintenant là, avec ce que fait l'UIGF, l'Inspection Générale des Finances, et les signaux sont quand même très positifs, eh bien, et je pense que c'est pour cette raison que le président de la République a demandé que M. Gilles Alinguete, l'inspecteur général, chef des services de l'UIGF, il est là-bas à Mwanda, c'est pour suivre, et il faut suivre dès le départ, il ne faut pas attendre que ces dégâts soient commis, et qu'on vienne intervenir, on fait le médecin après la mort.
Et donc il faut tirer les leçons du passé.
Oui, pour tirer les leçons du passé. Moi, je suis très optimiste, Et je voudrais vraiment que nous restions éveillés, que nous puissions tous donner, accorder la chance à ce projet et surtout faire en sorte que qu'on respecte ce qu'on appelle les études à impact environnemental.
Merci. Nous allons maintenant passer au point de vue des auditeurs qui sont en train de donner aussi leur point de vue par rapport à cette émission. Monsieur Arsène Mapoko, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Kananga au Kasaï Central.
Maître Alidor Mampouya, avocat au barreau du Kasaï Central et résident dans la ville de Kananga. L'idée est bonne dans la mesure où il y a de l'intérêt du développement et du désenclavement de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, pour les bas blesses, c'est que déjà dans ce pays, il y a beaucoup de projets qui sont déjà lancés par le pouvoir en place, mais qui malheureusement ne sont pas achevés ni évalués à mi-parcours. Sur terrain, à part la pose de la terre, rien n'a été fait, même pas un début de commencement du projet. C'est pourquoi nous recommandons au gouvernement, au lieu de continuer à lancer encore d'autres projets, de faire d'abord l'évaluation de tous les projets qui sont déjà en cours, de les répertorier, ainsi savoir à quel niveau on se trouve. Le cas contraire, la RDC va demeurer un état d'ouvrage ou de chantier non achevé et le gouvernement risque de finir le mandat sans avoir aucun projet sur terrain réalisé.
Monsieur Arsène Mapoko, votre réaction?
Bien, j'ai suivi le compatriote, je les salue. Mais je voudrais dire que le directeur général du journal qui a intervenu en dernier...
Jérôme Sekana.
Voilà, il a dit quelque chose de très important. Je pense que notre auditeur doit savoir que le projet de Banana, c'est un projet clé qui permettrait de booster les autres, en fait, l'économie de la RDC. Et quand on parle de l'économie, en fait, il y a tous les projets qui peuvent permettre à ce que l'interconnexion au niveau des provinces, au niveau de différentes voies de communication, puisse amener une amélioration dans la gestion générale du pays. Maintenant, en ce qui concerne les différents projets que le gouvernement a lancés, bien, nous avons une certaine maladie. Avec tous ces problèmes de corruption, tous ces problèmes de détournement et tout ça, est-ce qu'il faut arrêter un projet comme celui-ci, dont le gouvernement de la RDC ne débourse aucun rond? Est-ce qu'il faut l'arrêter pour cela? Je pense que faire une évaluation des projets que le gouvernement gère au niveau du pays, c'est une chose, mais cela ne devrait pas, à mon sens, faire qu'on arrête le projet de Banana, le temps de faire l'évaluation de nos gesticulations à l'intérieur et tout. Non, je ne crois pas que ça soit vraiment l'idéal. Mais je voulais aussi éteindre quelque chose par rapport à M. Alphonse qui a parlé de l'environnement, des questions environnementales.
M. Apollinaire, en tout cas.
Oui, Apollinaire, excusez-moi. J'ai eu l'opportunité d'avoir été parmi les experts qui ont travaillé ce projet à la fin ici. La question de l'environnement a été longuement discutée au niveau de la commission. Et c'est certainement pris en compte dans le rapport ou dans le contrat qui a été signé. Le projet de port de Banana, est-ce que ça va annuler ou ça va détruire le port de Boma et tout le reste? Je pense que le bief maritime va continuer à fonctionner. Tous les produits ne vont pas passer seulement par les chemins de fer. Il y a des produits qui passeront également sur le bief maritime. Le bief maritime ne va pas mourir.
Merci. Monsieur Apollinaire, en tout cas, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train de nous appeler depuis la ville de Bukavu au sud Kivu.
Sikiri Chomba, je vous appelle depuis Bukavu dans la province du sud Kivu. Cette initiative de la construction du port en eau profonde de Banana au Congo central est une bonne chose pour la République, d'autant plus que ce projet permettra au pays d'avoir un accès sur la côte ouest de l'Afrique, qui n'est pas une mince affaire à mon avis. Car non seulement que ça va contribuer au désenclavement du pays, mais aussi ça va apporter plus dans la caisse de la République, comme au Kenya et en Tanzanie. Pour garantir la matérialisation de ces projets sanitaires, il faudra un sursaut patriotique pour tous ceux qui vont intervenir de près ou de loin dans ces projets. Mais il serait mieux au chef de l'État de suivre lui-même ces projets à la loupe en faisant des essences sur terrain pour ne pas être surpris comme le projet précédent de 100 jours et celui de Chilejelo.
Monsieur Apollinaire, en tout cas.
Oui, mais je crois que c'est sa conclusion, sa recommandation.
j'adhère à sa recommandation par rapport au chef de l'État pour que nous ne puissions pas connaître ce que nous avons connu avec les 100 jours et les autres. Mais au fait, quand je suis l'ami, l'ancien de la CVM, il a dit que les ports en soi, c'est une bonne chose pour recevoir les marchandises qui vont venir. Et je vous dis, la question du port dans le Congo central. Nous avons, par exemple, le port de Boma et de Matadi. Nous recevons de moins en moins de bateaux qui viennent. Et ce qui fait que les activités et corollaires du port ne se font pas sentir. Et donc, là, je reprends la question du chérier de la République démocratique du Congo et la question aussi de la portée économique. J'imagine que le port est construit dans une logique d'une politique économique qu'on est en train de mettre en place. Et dans ce cas-là, c'est bon. Mais je me pose la question, nous allons exporter quoi? Ça, ce sont des questions majeures que nous devons nous poser, nous les Congolais. Qu'est-ce que nous allons exporter et comment nous allons le faire pour que nous puissions bénéficier vraiment de ce qui va venir du port? Je vous dis que la question environnementale, c'est une question importante. Si c'est discuté dans une commission d'études au niveau des experts du projet, je crois qu'il serait bon que ces résultats des études soient aussi validés par les agences reconnues en République démocratique du Congo.
Merci.
L'agence congolaise d'environnement.
Merci.
Que cette agence puisse valider cette étude et rendre ça public. Et lors de la validation, que les organisations de la société civile soient aussi là-bas pour voir quelles sont les dispositions qui ont été prises sur les questions des délocalisations et sur la question des atténuations des impacts environnementaux dans la zone.
Merci. Jérôme Sekana, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle des Kolosi dans les lois là-bas.
Chouk Mouigiroua à partir de l'écologie. Cette initiative est bonne, mais la crainte en est que tous les projets initiés par le président de la République depuis son avènement souffrent de détournement. Citons les projets 100 jours, la gratuité de l'enseignement, l'état de siège, le projet sur le gelou. Et le cas le plus récent est celui de l'organisation des Jeux de la Francophonie. De ce fait, on peut dire qu'il y a en amont un problème de gestion des finances qui se pose, et en aval, la gestion de grands projets par les cabinets du président de la République, et un cabinet qui s'est substitué au gouvernement. Voilà les deux grands problèmes qui peuvent faire à ce que la construction du port en eau profonde de Banana puisse connaître des difficultés. Mais aussi, l'expérience démontre que tous les projets publics initiés à la veille des élections connaissent souvent les problèmes de détournement des fonds.
Monsieur Jérôme Sekana.
Oui, je vais répondre directement à la question de notre compatriote de Souk Mouigiroua qui nous appelle depuis...
Kolosi.
Pas moi, il a cité...
Kolosi.
Kolosi. Son inquiétude est fondée. Hein. Les projets initiés par le président de la République souffrent des détournements. Bien sûr qu'il y a quelques cas de détournements, mais nous pouvons nous réjouir d'avoir l'IGF qui est en train de faire un grand boulot. Mais par contre, nous devons faire attention de gober aussi n'importe quelle information. Il n'y a jamais eu détournement en ce qui concerne la francophonie, les jeux de la francophonie. Les gouvernements n'avaient même pas encore décaissé. C'est maintenant que le gouvernement vient de disponibiliser 25 millions d'euros pour entamer les travaux qui doivent s'exécuter pour faire en sorte que nous puissions être dans les délais. Alors, je voudrais, avec votre permission, cher confrère, dire que, parce que l'un des co-débatteurs a posé une question très très pertinente. Il dit, nous allons exporter quoi? Il faut donner une justification à cet investissement. Et il n'y a pas deux, trois solutions à cela. C'est-à-dire, on peut accorder un moratoire au jour d'aujourd'hui aux miniers de pouvoir exporter par voie routière, je ne sais pas moi, comme ils le font maintenant. Mais à partir de 2025, il faudra que le gouvernement tape du poing sur la table pour obliger tout le monde à exporter son minerai via le Congo central, je veux dire, via le port en eau profonde de Banana, comme à l'époque coloniale. Ainsi, on aura un tonnage qui va justifier l'existence de ces ports. Ce n'est pas les produits agricoles qui peuvent permettre à ces ports de devenir rentables. Il y a d'abord les minerais. Voilà.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour garantir réellement la matérialisation de ces projets, les ports en eau profonde des Banana? Vous avez suivi les inquiétudes exprimées, n'est-ce pas, par les auditeurs qui nous ont appelés. Celui de Kananga, lui pense qu'il faut commencer par évaluer les projets qui sont en cours. Celui de Bukavu vous dit qu'il faut faire le suivi de l'exécution des travaux.
D'abord, je suis d'accord avec celui de Bukavu. Les suivis, je venais de dire tout de suite que le monsieur Gilles Alingué se trouve sur place. Il doit d'ailleurs mettre déjà dans ses projets ces inspecteurs qui vont suivre. Les décaissements ne se fera pas de n'importe quelle manière parce que c'est une jointe venture. C'est une jointe venture, mais qui fonctionnera sous le modèle PIOT, comme je venais de le dire. Et vous savez que c'est un problème de souveraineté. Avec ce projet de port en eau profonde des Bananas, fini les transbordements au niveau des pointes noires, le volume d'importation va augmenter. Vous avez suivi notre balance commerciale entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo approcherait les 1 milliard, comme venait de le dire.
Oui, mais la question fondamentale ici, qu'est-ce qui peut garantir la matérialisation de ces projets?
La bonne gouvernance, il faut que les clauses telles que définies dans les contrats soient respectées, que le gouvernement de la République démocratique du Congo soit sérieux, comme le disaient mes co-débatteurs, pour faire en sorte qu'on ne puisse plus se moquer de nous, qu'il n'y ait plus ce qu'on a toujours appelé les éléphants blancs. Mais je voulais dire un petit mot rapidement, je sais que l'émission tend vers la fin. J'étais parmi les premiers journalistes qui avaient dénoncé la construction du pont, route, rail, barrage entre Brazzaville et Kinshasa avant la construction du port en eau profonde des Bananas. Dieu merci, la base n'a pas encore bouclé tous les financements, c'est plus de 400 millions de dollars. Mais je pense que nous devons nous investir et le gouvernement doit tenir bon. Il faut que ce port en eau profonde des Bananas soit totalement construit et que nous puissions connecter le pays à ses points de sortie et d'entrée avant que nous puissions penser à construire le pont entre Kinshasa et Brazzaville.
Merci, je considère ça comme votre conclusion parce que c'est à la fin de l'émission. Monsieur Arsène Mapoko, vous allez aussi conclure. Et qu'est-ce que vous proposez pour que la matérialisation, n'est-ce pas, de ces projets puisse être garantie? Vous avez suivi Jérôme Sekana qui a parlé de la bonne gouvernance.
Oui, en fait, c'est un élément clé dans la gestion de tout projet. S'il n'y a pas de bonne gouvernance, si on n'y met pas du sérieux, c'est le fiasco. Mais je voudrais terminer en disant que la viabilité de ce port en eau profonde oblige la RDC à rétablir la voie nationale qui permettait à l'époque, comme un des co-débatteurs venait de le dire, de prendre les produits miniers du Katanga vers le port de Matadi. Donc il faut remettre la voie nationale en bon état. Et ça va accompagner le succès, en fait, l'importance de ce port. Sinon, on va recevoir des marchandises, des produits qui viennent de l'extérieur, mais en retour, les bateaux rentreront vides. Et en fin de compte, l'escale du port de Bananas deviendra de moins en moins importante pour les armateurs.
Merci Apollinaire Nsoka. Qu'est-ce qui peut garantir la matérialisation du projet port en eau profonde de Bananas?
Oui, au fait, c'est comme mes co-débatteurs, je crois que la bonne gouvernance est l'un des éléments clés pouvant garantir la survie et la matérialisation du port de Bananas. Mais je voudrais dire une chose. Vous savez, quand je suis Jérôme Sekana, je constate que l'économie de la République démocratique du Congo est fondée sur l'économie minière. Moi, étant du Congo central, je suis de plus en plus convaincu que le secteur agricole reste le secteur pauvre en République démocratique du Congo. Donc, il est nécessaire que le gouvernement congolais puisse se doter d'une politique économique dans ce sens. Réhabiliter le secteur agricole afin que le miette ou le peu d'argent qui tombera puisse arriver aux Congolais, même en milieu rural.
Merci à Jérôme Sekana, à Arsène Mapoko et à Apollinaire Nsoka d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Polydor Basunga qui était à la technique et à Kelly Nkouté qui a réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sabujangwe. À la présentation Guy Maté, merci et bonne suite des programmes sur Radio Okapi.